Europe 1.
Il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Alors prenez un papier et un stylo. Émission spéciale aujourd'hui avec ceux sans qui La Voix est libre ne serait pas La Voix est libre. J'ai nommé Stanislas Rigaud de la librairie Lamartine, Sandrine Babu de l'Instant, Marie-Ève Charbonnier, librairie Parole à Saint-Mandé, Amandine Cole, librairie de Paris à Paris, Christophe Daniel, la 25e heure et bien sûr l'écriture de Vaucresson avec Anne Burzinski. Et Thibaut Raden, salut les libraires.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Salut Nicolas. Bonjour.
Donc on va faire le tour des bonnes idées pour cet été, grâce à vous, les libraires de La Voix est libre. Et on commence avec vous, Stanislas Rigaud. Stan et son obsession pour le mage du Kremlin. Dans la librairie, il y a une pile énorme, il y a une palette au milieu avec Stan à côté qui ne vend que ce roman-là.
Beaucoup en tout cas. Non, c'est effectivement le carton surprise, hein, parce que c'est un livre qu'on n'attendait pas du tout. Le carton surprise des dernières semaines qui s'amplifie, qui est régulièrement la meilleure vente du magasin, hier, samedi, et qui bénéficie en plus du coup de cœur des libraires, en fait, d'un très 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 bon retour de nos clients. En fait, beaucoup de clients reviennent l'acheter pour l'offrir, et effectivement, c'est un livre que vous avez typiquement envie d'offrir, parce que c'est à la fois un formidable roman, et en même temps, une formidable plongée dans l'âme russe, puisqu'on va suivre les aventures d'un certain Baranov, qui est un homme de l'ombre du pouvoir russe. Et avec, à ses côtés, on va traverser une bonne partie du XXe siècle et le début du XXIe. C'est à la fois brillant dans la littérature, mais c'est aussi une brillante analyse, effectivement, de cette Russie qu'on ne comprend pas toujours, même rarement. Le conseil est quand même qu'on ne comprendra jamais vraiment. En même temps, c'est forcément une autre vision de l'actualité. Mais c'est un livre qui va bien au-delà de l'actualité. Je pense qu'une grande partie de son succès est due à l'actualité, avec l'Ukraine forcément, et le fait que le fameux Baranov, qui est le héros du livre, a été vraiment un conseiller de Poutine, que le livre commence avec sa disparition et que, de manière absolument un peu incroyable, c'est que l'homme qui a inspiré Baranov a disparu lui aussi, en fait, et on a appris ça il y a quelques semaines.
Et c'est Giuliano da Empoli, c'est chez Gallimard. Merci beaucoup Stan, on continue avec une autre obsession, celle d'Anne Burzinski. Anne, à Vaucresson, vous, c'est American Dirt en version poche que vous lancez à tous les clients qui rentrent dans le magasin. Tous vos posts sur les réseaux sociaux sont consacrés à American Dirt de Janine Cummins. Vous nous racontez ?
Alors oui, effectivement, je suis un petit peu obsessionnelle et vous pourrez demander à Thibaut, il y a un effet de secte autour de ce livre. C'est lui qui utilise le mot parce que c'est vrai que c'est très drôle, mais les clients tournent autour de moi quand ils ont fini de lire le livre, on lève les bras en l'air et on dit « Vous avez vu, c'est extraordinaire ?» Oui, oui, c'est extraordinaire. Et donc oui, il y a un truc avec American Dirt, c'est fou. C'était déjà le cas en fait en grand format chez Philippe Ray, ça s'est confirmé avec 10-18 dans les deux éditions. Effectivement, c'est un texte que je conseille, que je conseillerais toujours, que je suis si heureuse d'avoir rencontré. Et American Dirt, pour moi, c'est vraiment une pépite. Il y a tout dans ce livre, en fait, vraiment tout.
Mm-hmm. Et qu'est-ce que ça raconte ?
Alors, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui est mexicaine. Son mari était journaliste. Il a écrit l'article de trop, on va dire, sur un cartel et sur le chef de ce cartel. Et ça n'a évidemment pas plu. C'était no pasaran, en fait, clairement. Et donc, ce journaliste et toute sa famille a été assassinés, en fait. Et cette femme, donc la femme de ce journaliste, est restée en vie avec son fils et les deux survivants de cette famille qui vont fuir à travers le Mexique pour rejoindre les États-Unis. Et nous, on va les suivre à chaque étape, en fait, en se disant, mais et après, comment ça se passe? Est-ce qu'ils vont s'en sortir, etc. Et du coup, c'est même pas dès la première page, c'est dès la première phrase. On est ce qu'on appelle une medias res, quoi. C'est direct, on est dans l'intrigue, on est dans l'action à la première seconde. Ce qui est génial, c'est que donc il y a à la fois ce côté où effectivement ces deux personnages qui sont des survivants, il y a cette menace latente du cartel, mais c'est pas un livre sur le cartel, c'est pas un livre de torture, d'exaction, de choses comme ça, c'est pas du tout le propos. Ces deux personnages, c'est leur courage, c'est leur fuite en avant, c'est cette espèce d'instinct de survie, et puis c'est la relation mère-fils, quoi, qui est juste complètement dingue. C'est aussi cette espèce de réflexe, quoi, de dire on pensera plus tard, on vivra notre deuil plus tard, mais là, Il faut qu'on tienne, en fait. Il faut qu'on tienne ensemble. Et waouh. Et du coup, c'est ça qui est incroyable avec ce livre, c'est que Jalynne Cummins, elle arrive à la fois à se documenter assez pour que tout ce qu'elle nous dit soit bluffant de réalisme, c'est-à-dire qu'à chaque étape, que ce soit avec les migrants qu'on croise, que ce soit comment ça se passe, etc., on sent que c'est vrai, on sent qu'elle veut pas nous dire n'importe quoi, on sent qu'on le vit réellement, enfin en tout cas qu'elle fait au plus juste. Mais à côté de ça, elle est aussi au plus juste en fait dans les sentiments, dans la psychologie des personnages, dans leurs réactions et leurs espèces de mécanismes de défense, dans cette fameuse relation dont on parlait, la relation mère-fils. Elle est juste dans les sentiments, elle est juste dans la psychologie, elle est juste justement dans la toile de fond réaliste, comme on disait, et elle est juste dans le rythme, en fait. Donc je veux dire, comment... Enfin là, il y a vraiment tout pour un roman d'été, c'est juste complètement dingue.
Sandrine Babu, il est en bonne place aussi à la librairie L'Instant, American Dirt.
J'ai adoré, c'est un livre que j'ai un peu attendu avant de lire, parce que le sujet, franchement, la violence des cartels, les migrants... C'était dur et j'ai résisté. Et après, moult avis positifs, je me suis dit quand même, je vais me lancer. Et après, là, moi, c'est pareil, je le conseille à tout le monde. En plus, il fait près de 600 pages, mais ça se lit comme rien. C'est magnifique, c'est du suspense. Enfin, je ne reprends pas tout ce qui a été dit, mais c'est génial.
En beaucoup moins de temps que Anne Burzynski, vous nous parlez de « Il est des hommes qui se perdront toujours » de Rebecca Ligieri en poche.
Tout à fait. Donc, Rebecca Ligieri, qui officie sous deux noms d'écrivaine, elle est un peu originale, c'est Emmanuel Bayamaktam. Et Rebecca Ligieri, donc là, elle avait publié chez POL un livre qui s'appelle « Il est des hommes qui se perdront toujours ». Donc, citation d'Antonin Artaud. Ça se passe dans les quartiers nord de Marseille. Là aussi, on se dit, bon, c'est violent, il y a de la misère, il y a du sexe un peu trash parfois. Et en fait, on est complètement pris dans l'écriture de Rebecca Ligieri. C'est une famille avec trois enfants, avec un père violent. Et en fait, on se demande jusqu'où ça va aller et comment ces trois gamins vont s'en sortir, hein, donc les deux frères et la sœur. Et donc, d'après ce que dit le titre, en fait, c'est est-ce qu'on peut échapper à son destin ? C'est un peu ça le nœud du livre. Ceci dit, c'est un livre bourré d'énergie, de musique. On croise Michael Jackson, I Am, ça parle d'amour, de désir. C'est vraiment très, très bon bouquin.
Parfait. Il est des hommes qui se perdront toujours, Rebecca Ligieri. C'est chez... au Livre de Poche, non ?
C'est Folio.
On a dit American Dirt, donc de Jalynne Cummins, le choix d'Anne Burzynski, et Le Mage du Kremlin de Giuliano d'Ampoli. Chez Gallimard et chez Stan Rigaud. On se retrouve dans un instant pour d'autres livres.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est livre.
Nicolas Carreau.
La Voix est livre continue avec l'équipe des libraires de La Voix est livre. Stanislas Rigaud, Sandrine Babu, Marie-Ève Charbonnier, Amandine Cole, Christophe Daniel et l'équipe de l'écriture, Anne Burzynski et Thibaut Raden. Et justement, Thibaut, alors, je précise que vos cressons, vous êtes par ligne, parce que ça fait trop loin pour venir jusque dans le studio. Thibaut, vous êtes avec nous ?
Oui, je suis là.
Alors, vous avez voulu parler d'une petite nouveauté, d'un auteur qui débute, Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac.
Ouais, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui connaît ce type-là, donc je me suis dit, pourquoi pas en parler un petit peu. Non, pour la petite histoire, ça fait 2 mois à la librairie que je m'amuse avec les clients à changer un peu de place, c'est-à-dire que je leur demande de me conseiller des bouquins. Et
pas mal.
Bah non, mais c'est vrai, pour découvrir trucs que j'ai pas lu ou quoi que ce soit. Et en fait, une cliente et amie m'a dit Cyrano de Bergerac, moi c'est mon livre préféré. Et en fait, que ce soit du théâtre, ça m'a un peu fait tiquer. Je me suis dit que c'est vrai que je l'ai jamais lu et on lit pas beaucoup de théâtre, donc allez banco. Je raconte pas l'histoire parce que tout le monde connaît à peu près l'histoire, mais juste, je l'ai ouvert un matin, j'arrive à la librairie, je prends les premiers exemplaires que je vois parce qu'il y a plusieurs éditions, et je l'ouvre comme ça. En fait, impossible de lâcher. Dès que j'avais 2 minutes, je fonçais dedans parce qu'en fait, c'est en plus d'être une histoire extraordinaire, c'est très très bien écrit, c'est très très bien parlé, c'est un document historique, et il y a tellement de puissance dans tous ces personnages, parce que tous, il n'y a pas que Cyrano, que je me disais, comment j'ai pu passer à côté d'un truc comme ça, quoi. Et je me suis même amusé toute la journée et puis jusqu'au lendemain à me rendre compte que quand je parlais comme eux, en fait. il y avait un côté où il fallait que tout soit un petit peu grandiose, tout soit bien dit, le bon mot. Et en fait, c'est même venu naturellement. C'est tellement
cher
c'est
client,
tellement beau,
que me vaut l'honneur de votre visite aujourd'hui.
Voilà, il y avait presque ça. Et puis je me disais, mais c'est fou, même dire à une femme qu'elle est belle comme ça, mais comment, c'est incroyable, il faut que j'apprenne ça et tout. Enfin, bref, c'était vraiment une lecture extraordinaire où à la fin j'en pouvais plus, j'arrêtais de respirer jusqu'à la dernière parole dite, dernière parole écrite. J'ai été soufflé de A à Z, et en fait c'est quelque chose qu'on lit à l'école mais qu'en fait il faut lire encore aujourd'hui, découvrir, redécouvrir. C'est merveilleux quoi, c'est rempli de punchline en plus, c'est hyper moderne.
Rappelez-moi d'ailleurs, en parlant de théâtre, il y a quelques années, vous nous aviez parlé d'une pièce de théâtre chez un éditeur indépendant, assez confidentiel, ouais. Et vous avez vendu des palettes.
Alors des palettes peut-être pas, mais j'en ai vendu pas mal en fait. C'était la pièce s'appelle Relief et c'est de Claire Médard, et l'éditeur c'est De Beauvilliers. Et ça, ouais, ça paraît une découverte. Immense, Claire Médard, déjà, c'est une femme extraordinaire, une écrivaine extraordinaire. Et puis là, c'était 50 pages d'un moment absurde entre un couple extrêmement drôle. Enfin, c'est superbe, c'est à déclamer. Vous savez, dans la rue, vous prenez le livre, vous le faites, et en fait, ça va rassembler les foules, quoi. C'est génial.
Le théâtre, les autres, vous en vendez je ne parle pas juste des scolaires, mais est-ce qu'il y a des gens qui demandent des pièces de théâtre à lire? C'est particulier quand même, quoi.
À part les classiques, c'est compliqué. Hein. À part là, dernièrement, des gens comme justement Edmond.
Stanislas Rigaud.
Mais c'est vrai, d'abord, on n'a pas de rayon théâtre. En théâtre contemporain, à l'exception de quoi, Actes Sud Papier, qui sort un godet par ici. Mais c'est quelque chose ça. Par contre, effectivement, forcément, en classique, on en vend quand même pas mal. Ouais.
Alors, ce n'est pas un classique, mais c'est chez Sonatine. Et ça sent toujours bon quand c'est chez Sonatine. C'est Marie-Ève Charbonnier qui nous a amené Duchess. De Chris Whitaker.
Exactement.
Duchesse.
Un livre qui est récemment sorti, donc ce n'est pas encore un classique. Et surtout, le bon livre, le bon livre avec tous les ingrédients qu'il faut. C'est ultra romanesque. Il y a des obstacles autant qu'il faut. Il y a deux petits jeunes, une petite gamine de 13 ans et son petit frère de 5 ans, hyper malmenés par la vie, une mère complètement fracassée, alcoolique. Enfin bon, voilà. Dit comme ça, ça ne donne pas très envie, sauf que. Il va se passer plein de choses, ils vont évidemment s'en sortir, parce qu'il y a aussi des gentils dans ce livre, donc il y a des gentils, il y a des méchants, et c'est écrit de façon très, très simple, très facile à comprendre. Il y a deux récits qui s'entrecroisent en fait, c'est deux gamins, et un flic, un gentil flic, un peu malade, très ami de leur mère, qui va essayer de les sauver de là.
Un polar.
Il y a un peu les codes du polar en fait, parce qu'il y a un crime quelque part, quelqu'un qui s'accuse et le flic en question qui va essayer de prouver que c'est pas lui. Il se trouve que l'accusé, enfin l'homme qui s'auto-accuse du crime, c'est son meilleur ami. Et voilà. Et donc il y a assez ce fil rouge un petit peu pendant tout le livre. Les pages qui se tournent toutes seules. Franchement, ça se lit comme ça. Et il y a en plus vraiment un roman noir américain. On est au plein dans le Montana, en Californie, tous les codes du roman noir qui y sont.
Duchess de Chris Whitaker, c'est chez Sonatine. On n'a pas encore entendu Christophe Daniel, alias Christophe Vivaldi, parce que vous allez nous parler d'un livre qui s'appelle « Les locataires de l'été ». Vous nous avez dit aussi par mail, parce qu'on s'est mis un peu d'accord sur les livres dont vous parlerez, un livre qui s'appelle « Printemps ». Et c'est plein de fois, je suis arrivé dans votre librairie, vous m'avez sorti le truc de l'automne, l'hiver machin, l'été truc. Et Marie-Ève Charbonnier a répondu au mail collectif avec un petit sarcasme sur votre obsession pour les saisons. Mais c'est vrai, c'est votre côté poète, ça.
Je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais très envie de vous parler des locataires de l'été, qui est un petit bijou. C'est une réédition. Hein. C'est un livre qui était sorti il y a une vingtaine d'années.
Charles Simons,
c'est un écrivain assez discret. Je crois qu'en français, il y a deux livres traduits de lui. Et les locataires de l'été, je voudrais juste commencer par vous lire la première phrase, Linky Pete. Je sais que vous êtes un amateur d'Linky Pete.
Collectionneur.
Alors voilà, ça commence comme ça. C'est pendant l'été de 1968 que je tombais amoureux et que mon père se noya. Ça annonce la couleur. On est sur une petite île, c'est l'été. Michael, qui a 15 ans, passe une fois de plus l'été avec ses parents dans une maison familiale. Et ils ont un petit pavillon attenant qu'ils louent chaque année à des locataires. Et cette année, les locataires de l'été, c'est Mrs. Mertz et sa fille Zina, 20 ans. Et Michael... pendant cet été, va quitter l'enfance. C'est-à-dire que il a une complicité avec son père, ils ont un petit bateau, ils font des parties de pêche, mais très rapidement, il va être attiré par autre chose. C'est un roman d'apprentissage où il va découvrir l'amour, comme on a pu l'entendre dans la première phrase. Mais on sent que la tragédie n'est pas loin. C'est un roman d'apprentissage avec un éveil à l'amour, au désir, à la sexualité, puis au monde mystérieux des adultes et des rapports parfois un peu étranges qui s'installent
lors d'une saison. Et la couverture est magnifique.
Pardon.
La couverture est magnifique.
La couverture est magnifique, c'est un tableau de Hopper.
Ouais, c'est souvent ça, les couvertures magnifiques, c'est un tableau de Hopper.
Voilà.
Là, c'est un peu zoomé sur le tableau, j'ai l'impression. Je ne le vois pas, mais...
Alors, en fait, pour être tout à fait franc, l'exemplaire que j'ai amené avec moi, c'est la première édition. La réédition qui sort ces dernières semaines, c'est également un tableau de Hopper, mais pas le même.
C'est chez Libretto toujours ?
C'est chez Libretto toujours,
oui. Les locataires de l'été de Charles Simmons, et on a dit Duchess de Chris Whitaker. Je le dis avec un accent parce qu'il n'y a pas de E à Duchesse. Hein, c'est ça, on est d'accord, Marie-Ève ?
Tout à fait, c'est Duchess. Le prénom de la petite fille.
D'accord. De Chris Whitaker, c'est chez Sonatine et... merveilleuse idée de Thibaut pour cet été, Cyrano de Bergerac. Edmond Rostand, on se retrouve dans un instant.
La Voix est livre.
Nicolas Caro.
La Voix est livre avec les libraires de La Voix est livre. Je vous redonne leur nom. Stanislas Rigaud, librairie Lamartine. Sandrine Babu, librairie L'Instant. Les deux sont à Paris. Marie-Ève Charbonnier à Saint-Mandé, librairie Parole. Amandine Cole, librairie de Paris, Place Clichy, Christophe Daniel, la 25e heure, et bien sûr l'écriture de Vaucresson, Anne Burzinski, Thibaut, Raden, Amandine, librairie de Paris. Vous partez en Espagne, vous, cet été.
On part en Espagne et on reste en été à nouveau, avec une Espagnole qui s'appelle Sara Mesa, qui est une immense star des lettres en Espagne et qu'on connaît encore assez peu. Et là, l'histoire, c'est celle d'une femme qui loue une maison dans un bled, vraiment. Ça s'appelle La Escapa, il n'y a pas grand monde, tout le monde se connaît. Et là-bas, elle part parce qu'elle va un peu s'oublier elle-même. On sait qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas vraiment quoi. Et le livre s'appelle Un amour, et ça va être le centre de l'histoire. Elle va rencontrer quelqu'un, elle va rencontrer plusieurs personnes, et chaque personne va créer des sensations bizarres, étranges. On dirait qu'elle n'est pas adaptée à la vie en communauté. Et l'homme qu'elle va rencontrer, qui va déclencher cet amour, ça va commencer sur quelque chose de très compliqué, de très bizarre, puisqu'il va lui demander une faveur sexuelle un petit peu curieuse.
Ah, d'accord.
Et là-dessus, il va s'installer une relation. Et le roman se poursuit, il se passe d'autres choses. Mais ce qui est intéressant vraiment chez Sara Mesa, c'est la façon dont elle parle des hommes et des femmes. Elle parle des relations entre eux et elle parle de la différence. Elle parle de la façon dont l'un et l'autre reçoivent les choses, de la façon dont on est aussi peut-être un petit peu éduqué à être dans une position d'attente, une position de recevoir, une position d'attendre que l'autre vous choisisse. Et tout ça est fait avec une acuité des sentiments, avec une finesse et avec quelque chose qui nous fait nous dire « Tiens, je comprends ça parce que je l'ai déjà vécu. Si on a déjà vécu un amour et qui s'est mal fini, on voit à peu près comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que ça se termine. » Et toutes ces choses-là, finalement, sont à la fois complètement éternelles, un amour qui se termine, et c'est très contemporain parce qu'on se permet de le comprendre et on se permet de se dire « peut-être que ça n'a pas été ma faute ». Et moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant à la fin.
Voilà. Amandine Cole, nouvelle recrue, elle est forte. Je ne l'ai pas vu passer, il est sorti quand ?
Alors, il est sorti il y a 2 mois. Sara Mesa, elle a déjà un autre livre qui avait été publié en France, mais on la connaît encore assez peu. Elle a commencé par écrire de la poésie, et je pense qu'on entendra de plus en plus parler. Elle a écrit notamment un autre livre sur les relations au temps d'Internet et des réseaux sociaux.
On repart au duplex avec Vaucresson, Anne Burzinski, vous m'entendez ?
Oui !
J'aime bien faire le reporter de terrain alors que pas du tout. Vous vouliez nous parler ?
J'ai mon oreillette, Nicolas, oui, je vous reçois.
Entre toutes les femmes, c'est ça ?
Mais oui, ouais. Mais quel titre,
oui.
Non,
ouais, ouais.
C'est le même en anglais, Amongst Women.
C'est le Je vous salue Marie, en fait.
Oui, c'est ça. Il y a clairement cette référence-là, parce que le père qui, en fait, là, on va en parler, mais qui est le personnage principal, en gros, il est le père de famille est très pieux, en fait. La religion est importante pour lui.
Mm-hmm. Qu'est-ce que ça raconte?
Alors, en fait, ça se passe en Irlande, et on sent justement, donc, on parlait du fameux père de famille, donc lui, c'est le patriarche, il a combattu, en fait, pendant la guerre d'indépendance, on sent qu'il a quand même été un peu marqué par ça, et qu'il est pas taiseux et sombre pour rien. Mais après, ce sera pas tant justement sur cet épisode-là de sa vie, on va en parler, mais plus en passant. Ce qui est vraiment important dans ce livre-là, donc, de John McGahern, c'est, en fait, cette espèce de roman familial où on a donc cette figure qui est centrale et ses filles autour, en fait, qui vont grandir. Il y a son fils aussi, d'ailleurs, il y a quand même un fils. Et c'est en fait comment chacun s'articule autour du père et tout. Et en fait, la personnalité de chacun, l'évolution de chacun, mais aussi, surtout, la figure de ce père qui est assez passionnante, en fait, parce que lui, il va se remarier. En fait, jusque-là, il était veuf. Il va se remarier, donc une nouvelle femme qui rentre dans la famille. Et on sent que tous, en fait, que ce soit donc cette belle-mère et tous les enfants, quel que soit leur âge, quelque part, ils sont tous tournés vers lui. On sent que c'est un père qui force un peu le respect. Tout le monde est vraiment très attaché à cette famille. Il y a quelque chose d'un peu sacré du clan familial. Mmh. Et en même temps, ce père, il est ombrageux, quoi. On sent qu'on est toujours en train de guetter son humeur parce qu'on se dit, oulala, le vent peut tourner et d'un coup, il peut changer complètement d'humeur. Et il y a cette espèce de menace de est-ce que le père va bien? Est-ce qu'il est dans un bon ou dans un mauvais moment? Et ça donne la température, quoi. Mmh. Donc, on n'est pas sur des maltraitances physiques ou quoi que ce soit. On n'est pas sur un climat non plus de roman noir ou de polar ou quoi que ce soit. Mais on est sur quelque chose de très juste dans les psychologies humaines, j'allais dire, avec ce personnage qui est absolument fascinant, en fait. Et toutes les espèces de satellites autour, en fait. Et ça, c'est vraiment un grand roman pour moi. Vraiment. C'est un livre qui était paru, en fait, édition originale, c'était 1990. Mais nous, en France, rien du tout.
Il n'avait pas été traduit
tout, en fait.
Si, il avait été traduit, moi je me souviens.
Ah, il avait été traduit, mais alors du coup...
Ouais, excuse-moi. Il y avait, je crois que la plupart des romans de McGahern avaient été traduits à l'époque. Il y en a 8, je crois. Et franchement, c'est un des auteurs irlandais les plus marquants pour moi et pour Anne, j'ai l'impression. Mmh. Et c'est une très bonne idée que les éditions Sabine Vespisser rééditent. Je crois qu'il y a eu l'Obscur avant celui-là. Ici. Et voilà, je crois que c'est un auteur très très important et un bonheur de lecture. Ouais.
Vous l'avez découvert là, Anne?
Oui, moi je l'ai découvert là, donc il est sorti en avril 2022, du coup, enfin en tout cas sorti ou ressorti, mais en tout cas Sabine Vespisser, moi, me l'a fait découvrir au moment de cette parution-là, ouais, effectivement.
John McGahern, Entre toutes les femmes, c'est chez Sabine Vespisser, donc, et on termine avec un classique. Stanislas Rigaud, Jack Kerouac est de retour. Magnifique.
Voilà, c'est le centenaire cette année de sa naissance. Bon, il faut lire Kerouac, ça s'est posé. Hein.
Sur la route, à 17 ans.
Voilà, moi je l'ai lu je ne sais pas combien de fois.
Obligatoire.
Je ne sais pas comment on fait pour ne pas vivre avec ce livre. Voilà, après, là je voulais parler effectivement de la parution chez Gallimard de son premier roman qui n'était jamais sorti, L'Océan Mon Frère, qui est un roman qu'on savait qu'il existait, que Kerouac n'a pas voulu publier à l'époque. Qu'il n'a pas vraiment fini. En fait. Bon, jusque-là, ça sent pas très bon. D'autant plus que bon, les fonds de tiroir de Kerouac, il y a quand même un paquet de trucs qui ne sont pas très lisibles, hein, faut être clair. Voilà, donc quand Gallimard sort ça, on se dit oui, bon, en plus, il ne voulait pas le sortir, machin, bon. Donc voilà, et en fait, le livre est très bon. Le livre est très bon, puisque c'est vraiment la naissance de l'écriture de Kerouac. Tous les thèmes y sont. L'histoire d'un type qui sort d'un bateau, il est en permission, il s'appelle Wesley, il va descendre en ville, et en ville, il va rencontrer des jeunes, des universitaires, qui causent, qui boivent des coups, il y a des filles, il y a des mecs, ils vont refaire le monde jusqu'au bout de la nuit, et puis dans la bande des gars, il y a un type qui s'appelle Bill, qui est totalement fasciné par ce Wesley, marin, un peu viril, un peu... Voilà, ils partent tous les deux, donc tout est là. L'amitié virile, l'amour de la littérature, les nuits qui n'en finissent pas, l'alcool, les filles. Voilà. Je trouve que le bouquin se lit d'une traite. Ça fait tellement du bien, en fait, de lire ce genre de littérature aujourd'hui. Donc, si vous n'avez jamais lu Kerouac, il ne faut pas commencer par là, on est d'accord. Ouais. Mais si vous avez aimé Kerouac, vous pouvez foncer dessus.
L'océan et mon frère, Jack Kerouac. Il faut commencer, évidemment, par Sur la route et ensuite enchaîner avec Big Sur.
Big Sur.
Notamment, il y a des passages où il écrit le bruit de la mer, ça fait parce qu'il est devant Big Sur et il entend la mer et l'océan Pacifique.
Voilà. Et on attend la Pléiade qui est dans les tuyaux depuis quelques années et que je pensais avoir là avec le centenaire, mais non, pas encore.
Et on peut lire aussi Un amour de Sarah Messa aux éditions Grasset et Entre toutes les femmes de John McGahern. À tout de suite pour d'autres livres.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, le retour de la vengeance. Avec Stanislas Rigaud, Sandrine Babu, Marie-Ève Charbonnier, Amandine Cole, Christophe Daniel, Anne Burzinski, Thibaut Raden, les libraires de La Voix est libre. Et Marie-Ève Charbonnier, vous vouliez nous parler de Proust.
Oui, bah écoutez, je pense qu'il ne faut pas avoir peur en fait. Hein. C'est le centenaire de sa mort, on vient de passer le 150e de sa naissance, donc c'est la deuxième année Proust. D'ailleurs, Proust, c'est tout le temps. Donc voilà.
C'est toujours un anniversaire.
Et ce livre-là, il est conseillable à tout le monde. Et moi, je me fais un plaisir fou à le conseiller, mais alors de 18 à 80 ans ou 90 ans ou plus. Parce qu'en fait, c'est le condensé. Enfin, je dis ça évidemment, et tout le monde le sait, j'ai l'impression de... Mais bon, bref. Donc, c'est un condensé de Marcel Proust. Tous les thèmes y sont, l'amour, la société de l'époque, et tout ça en 200 pages. Donc ça peut se lire comme un roman d'amour, la rencontre, la naissance de l'amour, la trahison, la jalousie, la fin, aller vers autre chose, enfin voilà tout ça. Ou alors ça peut ouvrir vers l'œuvre, c'est-à-dire que c'est simple, où on aime et on n'a qu'une envie, c'est de recommencer au début, où on déteste, et dans ce cas, ce n'est pas la peine d'insister. Mais franchement, c'est le livre qui peut être lu par absolument tout le monde, quoi. Sans compter évidemment le style, mais ça, je n'ai pas enfoncé des portes ouvertes, mais des portes ouvertes. Mais vraiment, l'été, ça vaut le coup, on a du temps, donc on s'y met.
C'est pas mal pour se mettre à la recherche l'été. Et éventuellement de tout enchaîner d'un seul coup.
Oui,
parce
alors là, bon courage
si
quand même. Il faut avoir
même.
Des très très grandes vacances.
Ouais, mais ça fait, en poche, ça fait 7 tomes. Bon, ça c'est faisable.
3500 pages, une paille.
Amandine.
Et dans les livres, en fait, on parle souvent beaucoup des incipit. Mais dans Un amour de Swann, ce qui est formidable, c'est surtout la dernière phrase. Alors je crois qu'on peut le révéler sans casser le suspense quand il dit tout cela pour une femme qui n'était même
qui n'était pas
mon genre. Ouais. Voilà. Je trouve que c'est une formidable phrase de fin.
C'est vrai qu'on ne parle pas assez des excipites. Ça s'appelle comme ça.
Je n'avais pas le temps.
Pour de vrai.
Et lui, il est très fort sur les excipites, parce que la fin, c'est aussi le début. Hein.
Exactement.
Ah oui, c'est toujours des boucles. Sandrine Babu, il y a un livre là, que vous avez apporté avec vous qui m'interpelle. Rien à voir avec Proust, manifestement.
Non. Moi, je vous emmène à Londres.
Body language. Body language, peut-être.
Oui. Ah. Bon, bah, de toute façon, avec Proust, on pourra toujours trouver des symboles et des métaphores.
Pour amener à Proust, c'est sûr. Donc, je vous emmène à Londres, à Camden. Donc, c'est un polar, hein. C'est un vrai polar. Il y a tous les codes du genre. Il y a des morts, il y a une enquête. Il y a donc, l'héroïne, c'est une jeune technicienne de morgue qui s'appelle Cassie, qui a 25 ans. Qu'une prof bien avisée a sorti un peu de la rue. Elle était punk dans la rue et donc, elle a poussé à faire des études, donc elle lui voue une reconnaissance éternelle. Et malheureusement, un jour, elle découvre que cette femme est morte, et donc elle est dans le tiroir de la morgue. Mais Cassie, elle a une espèce de don, une préscience. Elle a l'impression que les morts lui parlent, lui soufflent des choses, pour dire que peut-être leur mort n'était pas naturel. Alors elle n'est pas flic, mais évidemment, comme dans tous les bons polars, elle va se mêler de ce qui ne la regarde pas, elle va prendre des risques d'ailleurs, pour essayer de résoudre ce meurtre. Donc, il y a aussi... Elle a un chat. Moi, voilà, moi, j'adore les polars où il y a des chats. Donc, ça, c'est parfait. Elle a une grand-mère à qui elle se confie.
Attendez. Ce que vous nous dites ça, genre, elle a un chat.
Oui.
Bon, c'est accessoire. Mais c'est un indice ou pas?
Non. Pas du tout. Mais c'est très bien d'avoir un chat dans les livres. Et elle a une grand-mère donc, à qui elle se confie. Elle est orpheline. Ah, donc là, ça va être une trilogie. Hein. Donc, on sent qu'il y a des petites pierres blanches qui sont glissées dans le livre. Voilà. Et j'ai appris un mot. On nous dit sur le quatrième de couverture que c'est le premier volet d'une trilogie forensique. Alors là,
forensique.
J'ai pris mon dictionnaire Google. Forensique, c'est l'analyse des indices, l'analyse scientifique des indices pour résoudre les meurtres.
D'accord.
Donc merci Alibi pour m'avoir fait découvrir un mot. Donc Alison K. Turner, Body Turner. Language. Et Alibi, nouvelle maison d'édition Polar.
Ah, qui était la revue Alibi.
Voilà, c'est la
qui
même.
Qui était une revue de polar. Exactement. Et de faits divers et tout ça.
Que je vous conseille aussi.
Magnifique, je ne savais pas. On continue avec Thibaut en duplex de Vaucresson.
Oui. En plus, on continue avec complètement autre chose que du polar.
Tant mieux.
Pour le coup, tout à l'heure, Stanislas disait il ne sait pas comment les gens font pour vivre sans avoir lu sur la route. Et moi, je ne sais pas comment les gens font pour vivre sans avoir lu Little Nemo de Victor Masque.
Ça, vous le dites ça à chaque livre, Thibaut. Je vous
mais
connais,
parce
mon
que
vieux.
Tous les livres sont incroyables. Non, je déconne. Mais pour le coup, quand même, Little Nemo, c'est le classique des classiques et des grands classiques. Tous les auteurs d'aujourd'hui s'y réfèrent et ce n'est pas pour rien non plus. Little Nemo, c'est à la base, ça sort dans les journaux, c'est début du XXe siècle. C'est des petits strips où c'est un petit garçon qui rêve et qui va vivre de grandes aventures jusqu'au moment où il se réveille et la dernière case, c'est toujours son réveil. Alors là où c'est génial, c'est que le réveil a toujours du sens par rapport à tout ce qu'il vit. Mais dans toutes ces aventures, c'est une créativité qui est assez extraordinaire. En fait, ça n'a pas perdu. Ça a plus de 100 ans. Et ça n'a pas perdu ni de son punch, ni de sa force, ni de son inventivité, de son imaginaire. Et vous le savez un peu, je suis quand même un grand rêveur. Là, on passe notre temps dans les rêves. C'est quand même génial. Alors je me dis, pour l'été, sachant qu'il y a des formats qui sont plus ou moins grands encore disponibles, prendre un truc où de temps en temps, on s'envoie des petites rêveries, des petits rêves très drôles, très amusants et toujours bon enfant, il n'y a rien de mieux, quoi.
Little Nemo de Mackay, c'est pour faire de beaux rêves. Effectivement, c'est assez dingue. Moi, je voulais parler rapidement, enfin en parler avec vous, d'un des événements littéraires de cette fin de saison, c'est Blackwater de Michael McDowell, qui a été publié par les magnifiques éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture, qui font toujours des petits bijoux comme ça de livres. Et là, c'est des livres poche, en fait, magnifiques, et qui ont été publiés en feuilleton, 6 livres, tous les 15 jours, ils arrivaient chez vous. En espérant que des lecteurs avaient accroché au premier pour prendre les suivants. On est dans le sud des États-Unis, il y a eu une inondation dans un village et apparaît une femme comme ça avec des cheveux rouges, comme un peu rouge comme l'argile du lit de la rivière. On s'aperçoit assez vite, on peut le dire, que c'est un personnage peut-être un peu décalé, un peu fantastique, je ne vais pas trop en dire. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça a marché chez vous, comment vous vous êtes organisé pour ça, quoi. Parce que c'est inédit comme manière de faire. Tous les 15 jours, un nouvel épisode. Enfin, j'imagine que ça doit arriver, mais ce n'est pas tous les jours.
Non. Stanislas. Ça n'arrive pas.
Ça fonctionne très très bien. En fait, on a pris le pari avec Toussaint L'Ouverture. Hein, c'est un éditeur qui publie très peu, mais c'est souvent des très grands livres. Donc là, on avait pris le pari des deux premiers tomes, parce qu'on nous a demandé effectivement de signer tout de suite les deux premiers tomes. On a pris une grosse quantité sur les deux premiers, ça a accroché. Depuis, ils ont fait un très joli présentoir dans lequel on a les 6. Et ça marche très très bien. Et effectivement, sur un public qui au départ n'était pas spécialement celui de la librairie.
Alors, ce qui est génial sur ce bouquin, c'est qu'il est complètement transgénérationnel.
Ouais.
C'est à la fois des jeunes de 15, 16, 17 ans que des gens beaucoup plus âgés. Mon papa, par exemple, a adoré ce livre. Et puis surtout, pour la librairie, c'est génial. On accroche sur le premier, faut enchaîner sur les autres. Et c'est vraiment addictif. Alors moi, malheureusement, je me suis trompée, je n'en ai pas pris assez. Et je n'ai jamais la bonne quantité. Donc parfois, j'ai le 1 en grande quantité, j'ai plus le 2, j'ai le 3. Enfin bon, bref.
Mais il y a une rupture régulièrement.
Je guette les dates.
Et on a évoqué 100 000 exemplaires vendus il y a quelques temps déjà. Hein. 100 000 exemplaires.
C'est énorme.
C'est un vrai, vrai beaucoup d'éditions et pas artificiel, parce que le contenu est là. Quoi.
Bon, et l'auteur est incroyable, il est mort, mais c'était dans les années. Il a écrit ça début des années 80, et c'est lui qui a coécrit Beetlejuice, pour donner un peu le ton, même si ça n'a rien à voir avec Blackwater.
Et la couverture est magnifique, graphisme incroyable, tout ça pour un poche à 8,95€. Ils sont tous aussi beaux les uns que les autres, avec des couvertures différentes sur les 6 tomes.
Ouais, c'est collector.
Travail d'édition incroyable.
Dans 50 ans, c'est dans des maisons de campagne.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau. La Voix est libre qui reçoit tous les héros de l'émission en même temps. Stanislas Rigaud, Sandrine Babu, Marie-Ève Charbonnier, Amandine Cole, Christophe Daniel, Anne Burzinski et Thibaut Raden, les libraires de La Voix est libre. Et Sandrine Babu, vous avez un poche à nous proposer. C'est Le train des enfants de l'italienne Viola Ardone.
Exactement. Donc, paru en poche au livre de poche, il était paru chez Albin Michel. J'avoue, j'étais passée, mais complètement à côté. Voilà.
Incroyable histoire.
Dans les grandes largeurs. Et c'est une cliente qui m'en a parlé avec des trémolos dans la voix, c'est qu'elle le dit, puisque c'est italien. Et donc elle m'a raconté l'histoire de ce livre. Donc, je ne connaissais pas, c'est un fait historique. En Italie, après-guerre, les familles, on encourageait les familles pauvres de Naples à envoyer leurs enfants dans le nord de l'Italie pour leur assurer des meilleures conditions matérielles. Donc tout ça organisé par le Parti communiste. Donc, ils étaient accueillis dans des familles où ils pouvaient manger à leur faim, être bien habillés, etc. Mais vous imaginez la difficulté de se trouver séparé de ses parents. Donc, c'est assez incroyable. Mmh. Donc là, on est c'est Amerigo Speranza. Il a 7 ans. On croirait un peu retrouver, il est un peu plus jeune, mais le Antoine Doinel des 400 coups, vous allez dans le métro, donc c'est lui qui parle. On est à hauteur d'enfant au début, avec sa gouaille. Donc on est tout de suite complètement pris dans l'histoire. Et donc voilà, ça nous raconte comment sa mère se résout à le faire partir dans le nord de l'Italie, comment il se retrouve avec deux familles.
Via le train des enfants qui les emmenait.
Le fameux train des enfants. Voilà. Donc il y a des scènes dans le train qui sont excellentes.
Il traîne dei bambini, ouais. Je crois.
Je ne confirme pas, mais... donc c'est à la fois drôle, c'est touchant, on apprend des choses sur l'histoire de l'Italie. Après cet enfant va grandir, donc on va voir ce qu'il va devenir. Et il y a une phrase qui est très jolie, alors je ne vais pas la citer exactement, mais qui dit c'est parfois parce qu'on aime les gens qu'il faut les laisser partir.
Magnifique.
Donc magnifique livre de Viola Ardone
en version poche. Et à la rentrée, elle publie un nouveau roman qui s'appelle Le Choix, c'est toujours chez Albin Michel. Et ce sera le 17 août, Christophe Daniel. Printemps, été, hiver.
Alors, on va rester dans le flou, parce que c'est le livre dont je veux vous parler, ça s'appelle Le Flou du Monde. Mm-hmm. Et là, je vais vous emmener très dans fort. Les Balkans pour un livre. Alors, j'ai pas peur de le dire, je crois que c'est un des plus beaux livres que j'ai lu cette année. L'auteur, c'est une femme qui s'appelle Iris Wolf, qui vit en Allemagne, mais qui est originaire de Roumanie. Et la Roumanie, c'est là que l'action du roman se passe, dans une région qui se trouve à l'ouest de la Roumanie, avec plusieurs minorités slovaques, hongroises. Et là, on va suivre l'histoire d'une famille. On est dans les années sous la dictature de Ceausescu. Et on va suivre cette histoire de cette famille à travers un personnage central qui est Samuel. Donc la première histoire, il y a 7 histoires, 7 moments de la vie de cette famille. La première, c'est la naissance de Samuel. Sa mère Florentine quitte le village pour aller à la ville accoucher dans de meilleures conditions. Encore que les meilleures conditions qui sont décrites, il faut les voir pour le croire. Et on va retrouver donc Samuel à divers moments de sa vie. À un moment, il tâchera de passer à l'ouest pour sauver son ami Oswald, qui est en délicatesse avec le pouvoir roumain. Et c'est une écriture très très subtile. Il y a un élément très important dans toutes ces histoires, c'est le vent. Et le vent, il souffle parfois très comme une brise, comme une caresse un peu. Et puis parfois c'est beaucoup plus tempétueux. Et puis parfois il peut permettre un avion à hélice de passer de l'est à l'ouest. C'est vraiment un roman superbe que je vous invite à lire pendant cet été ou quand vous le voudrez.
Le Flou du Monde, validé par la douceur légendaire de Christophe Daniel. Rien à voir, je pense, puisque c'est à l'arbre vengeur. Amandine Cole, vous avez un livre qui s'appelle Off Course.
Off Course, oui. Franz Bartel, c'est quelqu'un qui écrit des livres parfois très courts, parfois très longs, mais toujours très écrit et assez merveilleux. Et Off Course, on a l'impression que quand on le commence, on est à un bar, on s'accoude, et il y a un type en face de nous qui va nous raconter une histoire. Et cette histoire, elle est complètement incroyable. C'est un homme qui a raconté à sa mère qu'il travaillait dans la police. En fait, c'est pas vrai, ils n'ont pas voulu de lui. On est dans une toute petite ville et un serial killer s'attaque aux femmes de petite vie, comme dirait sa mère. Et donc, il se met à réfléchir à qu'est-ce qui est en train de se passer. Et il se dit, moi, je vais l'arrêter. Et ce livre répond à une question qu'on nous pose souvent en tant que libraire, c'est, j'aimerais bien lire quelque chose de drôle. Parce que chez Franz Bartel, c'est toujours très drôle. C'est très écrit, c'est merveilleux. Il a un sens de la formule, il a un sens du rebondissement. La fin est très drôle aussi. Elle est à la fois extrêmement terrible et complètement drôle. Et ça, c'est un petit livre qui fait une centaine de pages et qui est parfait à conseiller à toute personne qui a envie de passer un bon moment de lecture.
On rigole fort ou on sourit ?
on rigole vraiment.
Ça, c'est vraiment très, très compliqué. Important, les livres drôles, très important. Et je voulais vous parler aussi, d'ailleurs, de Samouraï, de Fabrice Caro, qu'on appelle Fab Caro quand il fait de la BD Zaï 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 Zaï, mais que maintenant, on connaît aussi comme romancier, puisque c'est, on lui doit le discours qui a cartonné, Broadway. Et là, il a sorti Samouraï, qui est vraiment génial, l'histoire d'un écrivain en mal d'inspiration, qui est tout seul, qui vient de quitter sa copine et qui veut écrire son grand roman, mais qui n'y arrive pas parce que d'abord, ses copains sont persuadés qu'il ne peut pas rester célibataire, alors que lui, ça lui va très bien. Et donc, il lui présente des copines sans arrêt, il faut qu'il fasse des rendez-vous, machin et tout. Ça le saoule. En plus, ses voisins qui sont partis en vacances, parce qu'on en était, lui ont demandé de surveiller leur piscine, ce qui a l'air de rien, mais qui lui fait à lui une sacrée responsabilité. Et puis surtout, surtout, il change sans arrêt d'idée de roman. Et donc, c'est très, très compliqué pour lui d'arriver à écrire son roman. Dit comme ça, bon, mais en fait, c'est vraiment très, très drôle. À chaque ligne, il trouve un truc vraiment drôle, n'est-ce pas, Christophe ?
Ah, complètement. J'ai beaucoup ri. Et déjà, avec Broadway, il nous avait fait beaucoup rire. Mais avec Samouraï, je crois qu'on va encore s'esclaffer. Et ça, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de livres qui nous permettent de rire à gorge déployée.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue. J'espère que vous avez un papier et un stylo pour noter toutes les références que Stanislas Rigaud, Sandrine Babu, Marie-Ève Charbonnier, Amandine Cole, Christophe Daniel, Anne Burzinski et Thibaut Raden, les libraires de l'émission, vous donnent depuis tout à l'heure. Et on continue avec Stanislas. Tiens, Stan, le grand effondrement. Pour rester riant, c'est chez Liana Lévy, de Sébastien Lejean, vous vouliez nous en parler.
Voilà, alors ça, tout va bien pour les vacances, hein. Il fait un temps de chien pendant tout le bouquin, le moins qu'on puisse dire c'est qu'on se marre pas. Voilà. Mais c'est une super découverte du polar, premier roman d'un jeune auteur donc, de polar français, qui va nous plonger dans le monde étrange du survivalisme. Ah. Et alors ce qui est très fort dans ce livre, c'est que le thème n'est absolument pas ornemental, c'est-à-dire qu'on est vraiment... Le livre va nous enfoncer dans ce thème du survivalisme, un thème qu'on a plus ou moins traité, mais plutôt du côté américain, comme souvent, hein, toujours en avance dans les grandes idées. Et là, en fait, il y a vraiment un côté franco-français qui fonctionne à mort. On est deux enquêtes, on retrouve un type richissime mort dans une espèce de cage dorée qui s'est fait construire en sous-sol au cas où la planète viendrait à devenir invivable. Donc c'est vraiment c'est le chalet de luxe, mais sous la terre, et surprotégé, mais tellement surprotégé qu'on l'a quand même retrouvé mort. Et de l'autre côté, on retrouve un type qui dirigeait une chaîne YouTube sur le survivalisme, plutôt bon enfant, hein, faire un feu, une cabane, machin, tout ça, qui est retrouvé mort, flottant, hein, au fond, enfin, sur un lac, donc forcément dans un état un peu lamentable. Et donc, les deux histoires sont lancées, voilà, on va plonger dans plein de choses hyper sympas, hein, les fachos, les tout ça, mais c'est, tout est très très bien. C'est un bon polar, c'est tendu, c'est nerveux, et puis mine de rien, on s'enfonce dans ce thème, que effectivement, moi j'avais très très peu approché, hein, je veux dire, sur ça. Ça fait pas très envie, hein, on va pas se le cacher, mais c'est une très bonne surprise.
Parfait. Le grand effondrement chez Liana Lévy de Sébastien Lejean, c'est ça ?
Exactement, à suivre.
Marie-Ève Charbonnier, presque un classique déjà.
Oui, c'est vrai,
Normal
on peut le dire.
Normal
People de Sally Rooney, qui sort d'ailleurs un autre roman à la rentrée qu'on attend avec grande impatience. Normal People, alors génial ce livre parce que pour prendre en vacances, justement, il est là aussi fédérateur. Toute la famille peut s'y coller de 15 à 107 ans. Ça met en scène deux, au début de l'histoire en tout cas, deux jeunes adolescents, 17 ans, qui sont en dernière année de bac, tous les deux ultra brillants. L'un populaire et l'autre absolument pas. Et en fait, Sally Rooney va interroger la notion de normalité et les interrogations qu'on peut se poser, enfin qu'on peut avoir quand on a cet âge-là, peut-être même après d'ailleurs, sur qu'est-ce que c'est qu'être normal, qu'est-ce que c'est qu'avoir des amis, qu'est-ce que c'est qu'être bien dans sa peau, bien dans ses baskets. Et ce qui est vraiment super, c'est qu'elle a choisi d'interroger cette question en prenant ses personnages à plusieurs moments dans leur vie. Donc ça s'étale sur une dizaine d'années. Donc on les retrouve régulièrement au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années. Évidemment, les rôles s'inversent. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais il va se passer quelque chose entre eux, entre ces deux jeunes garçons et filles. Et puis on les retrouve plus tard et leur vie va changer totalement. Donc en fait, ce qui était posé au départ évolue, c'est la vie. Hein. Et ça peut répondre à pas mal de questionnements, je pense, de jeunes gens ou de parents de jeunes gens.
Normal People, c'est vrai que c'est pas mal pour l'été, de Sally Rooney. Et on termine avec vous, Anne Burzinski, en duplex de Vaucresson, Une République lumineuse de Andrés Barba.
Alors, ne vous fiez pas au titre, c'est tout aussi déprimant que le livre de Stan, mais c'est tout autant un classique que le livre de Marie.
Je peux vous dire, je l'ai choisi en me disant on va terminer sur de la lumière, c'est bien. Mais allez-y quand même.
Alors non, mais c'est complètement envoûtant en fait, et c'est tout autant un classique que ce que disait Marie-Ève, donc ça vaut complètement le détour. En fait, c'est le narrateur, c'est un gars qui travaillait en gros à la mairie, qui était un gars bien placé d'une petite ville qui s'appelle San Cristobal. Et il nous raconte quelque chose qui s'est passé il y a 22 ans, donc c'est vous dire que ça l'a quand même un tout petit peu marqué. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un groupe d'enfants qui a surgi comme ça dans la ville et qui est apparu aussi soudainement quelque part qu'il a disparu. En fait, au départ, tous les gens de la ville les surnommaient les enfants de la rue, puis après, ils vont carrément les surnommer juste les 32. Et en fait, on sent une espèce de tension dramatique comme ça qui monte, et on nous annonce très vite que ça se termine par un drame. Donc on sent qu'elle n'est pas anodine, cette arrivée, que c'est bizarre, ces enfants. Et justement, il y a cette espèce de menaces ou de, en tout cas, d'ambiance où on se dit, mais est-ce qu'ils sont vraiment menaçants ou pas? Donc, il y a un espèce de truc où, certes, ça se passe à San Cristobal, mais ça pourrait se passer partout. C'est un espèce de conte étrange, mystérieux, un peu sur le fil, comme ça. Et en fait, ce que j'adore, c'est que c'est écrit comme un classique contemporain. C'est vraiment un livre qui va rester. J'ai été bluffée par la capacité à compter, en fait, de l'auteur. Et d'ailleurs, bien joué à François Gaudry, qui est le traducteur, parce que c'est pas super évident de passer après. Mais ce qui est génial, c'est que voilà, on va avoir des questions en plus super centrales dans ce livre. C'est du type, en fait, comment on fait quand toute la vie d'une ville entière bascule comme ça d'un coup, quand on a tendance à tous se juger les uns les autres comme ça, qu'il y a cette espèce d'ambiance. Et puis, cette espèce de question à laquelle on revient toujours, hein, vous le savez, mais la question du mal, du bien, de l'innocence, et puis de qui sont les sauvages, en fait. Et donc, c'est ténu, tout ça. C'est où est le mal, où est le bien, qui est innocent, qui est le sauvage, qui n'est pas le sauvage. Et en fait, ces enfants sont fascinants. Et moi, j'ai pensé notamment à plusieurs moments, j'ai pensé à James Matthew Barry et à Peter Pan. Donc pour moi, c'est aussi pas rien de nous faire remonter tout ça. Et c'est une écriture, alors pour le coup, une écriture lumineuse, punaise, sacrée découverte. Quoi.
Une République lumineuse d'Andrés Barba, le choix d'Anne Burzynski. On termine avec un petit tour pour savoir ce que vous, les libraires, vous emmenez dans votre valise. Marie-Ève Charbonnier, cet été.
Ouais, alors moi, je me suis empêchée pendant toute l'émission de parler de Jon Kalman Stephenson et Ton absence n'est que ténèbres, qui est quand même mon livre préféré, mais je me suis dit que j'en avais trop parlé, donc je n'allais pas vous infliger ça.
Et vous ne l'emmenez pas cet été?
Non, mais justement, comme c'est le premier livre que je lis de lui, je m'attaque au premier. Donc je vais emporter dans mes valises la trilogie, la fameuse trilogie, et notamment Entre ciel et terre.
Amandine Cole.
Alors moi, je vais partir avec un auteur dont on attendait beaucoup le nouveau livre, qui s'appelle Jonathan Franzen, je pense que ici tout le monde le connaît.
Il attend énormément.
Vous avez le service de presse.
Oui. Alors, je vais même partir avec deux livres des éditions de l'Olivier, puisqu'il y a aussi un livre d'Emmanuel Richard qui s'appelle Homme, dont j'espère qu'on parlera beaucoup à la rentrée.
On commence déjà à en parler dans les milieux autorisés.
Oui. Exactement. Et donc le Jonathan Franzen qui s'appelle Crossroads, il fait 700 pages, donc c'est absolument indiqué pour l'été d'un libraire, puisqu'on a enfin le temps de le lire d'une traite. Et surtout, il sera au Festival América fin septembre.
Tibor Aden.
Moi, je vais partir avec Don Quichotte. J'ai envie de me faire Don Quichotte.
Vous êtes vraiment dans une période classique, là.
C'est terrible. C'est terrible à dire, mais j'ai pas énormément de coups de cœur ces derniers temps. Les nouveautés me font pas envie ou me tombent un peu des mains. Donc, il faut un peu me nourrir de la base.
Il faut que vous repreniez pied. Anne Burzynski.
Exactement.
Alors moi, je pense que je relirai sûrement quelques classiques, parce que j'en ai quand même pas mal qui attendent dans ma bibliothèque, et c'est vrai que l'été est propice aux découvertes ou redécouvertes. Et à côté de ça, je pense que j'aurai mon traditionnel bon petit carton qui part avec moi en vacances avec les rentrées littéraires. Et notamment, j'attends de lire le nouveau Frank Bouys quand même, de voir ce que ça donne, parce que je suis un peu inconditionnelle. J'avais été un peu déçue par Buveur de vent, et donc là, j'attends vraiment de voir ce que ça donne sur le nouveau là, qui est à apparaître.
On l'attend. Christophe Daniel.
Alors, moi, j'aime bien lire aussi un classique pendant l'été. Donc, c'est à la fois un classique et une nouveauté, parce que ça va être De grandes espérances de Charles Dickens.
Avec la nouvelle traduction de chez Tristram.
Exactement. Oui. Et je suis très impatient de lire...
De Dickens et Tristram, ils ont refait des traductions incroyables.
C'est le même traducteur qui avait traduit L'île au trésor il y a quelques temps, et qui était un pur régal. Donc, je pars très enthousiaste avec ce livre dans ma valise.
Et ça arrive août-septembre. Stanislas.
Eh ben alors, moi, comme mes amis, c'est une règle. Hein, les vacances, c'est des classiques. En fait, il faut absolument, je trouve, pour rééquilibrer les lectures, retrouver un point d'appui. Et les classiques sont le point d'appui.
Ouais, ouais.
Et donc, je vais partir avec Le Temps retrouvé, parce que je suis en train de terminer Albertine. Donc, forcément, il va bien falloir finir cette histoire.
C'est la fin du marathon.
C'est le meilleur en même temps.
Et moi, juste, je vous conseille, comme chaque année, comme chaque été, Les Aventures d'Horatio Hornblower de Cecil Scott Forester, l'histoire d'un jeune Anglais, 17 ans, qui a le mal de mer et qui pourtant est engagé dans la marine pendant la guerre. On est à la fin au début du 19e plutôt, et il y a les guerres napoléoniennes. On est dans le camp anglais, donc les Français en prennent pas mal pour leur grade. Et en parlant de grade, il y a 11 tomes et à chaque fois, c'est un tome, donc c'est aspirant, lieutenant, etc. Et ça se termine par amiral. Si vous avez un gamin de 13-14 ans, donnez-lui ça, il lira pour toute la vie, quoi. Il cherchera ce livre dans tous les autres. Cecil Scott Forester, Hornblower, ça date des années 1950. Voilà, merci beaucoup à vous les libraires de m'accueillir chaque semaine et d'être venus pour cette dernière émission de la saison. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la version été de La Voix est libre. Merci beaucoup à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Paczynski, évidemment, l'homme aux doigts de fée. À la semaine prochaine, salut.